Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capi Service.
La maladie à virus Ebola est une pathologie grave, souvent mortelle, à RDC. Cette maladie a déjà tué 13 personnes, dont 5 agents de santé dans la province de l'Équateur, selon le ministère de la Santé. Alors, quelles sont les mesures à observer pour éviter la propagation à grande échelle de la fièvre hémorragique d'Ebola? On en parle avec Dr. Benoît Kebela Ilunga, épidémiologiste. Dr. Benoît, bonjour.
Bonjour.
Alors, la première question est de savoir, on a parlé de la maladie à virus Ebola. Pouvez-vous nous en dire davantage, nous présenter cette maladie?
Bon, je pense que hier, j'ai suivi les interventions des ministres et puis des ministres en Norvège. Je pense que dans ces interventions, ils ont dit beaucoup de choses. Bon, si nous pouvons dire, les maladies à Ebola, virus Ebola, c'est une maladie qui est provoquée par un virus. Et puis, ces virus se rencontrent dans les forêts tropicales humides. Nous avons chez nous ici, si vous voyez, dans tous les pays où a sévi cette maladie, ça part de la région forestière. Ce sont des régions tropicales humides. Bon, c'est la même chose chez nous. Si vous voyez, chez nous, nous avons connu Yamboukou, c'est en pleine forêt. On a connu après, si nous avons connu après Kikwit, c'est toujours au niveau de la forêt. On a connu Mweka, c'est la forêt. On a connu Isiré, c'est la forêt. Mais maintenant, Bouende, c'est la forêt. Donc, c'est un virus qui circule au niveau de la forêt. Et puis, si on peut voir Ebola, normalement, c'est une zoonose. C'est une maladie. L'animal, c'est quand l'homme entre en contact avec l'animal que maintenant, il y a transmission d'homme à homme. C'est pour ça la première contamination, la contamination primaire, c'est de l'animal à l'homme. C'est quand l'homme va en contact avec l'animal. Normalement, c'est un virus qui est au niveau de la forêt, qui n'est pas un virus qui est au niveau dans la communauté. C'est la raison pour laquelle il est tellement violent quand il arrive dans les communautés, il tue et puis après il s'arrête. Vous comprenez? Il s'arrête. Non, c'est un virus, il était nécessaire, c'est un virus qui est normal, une maladie zoonotique, une maladie d'animaux. C'est pour cela même. Avant d'avoir une épidémie d'Ebola, souvent l'épidémie d'Ebola est précédée par des épizooties. Épizooties, c'est-à-dire que vous avez les épidémies de maladies animales chez l'animal.
D'accord. Et alors,
souvent c'est ça qui arrive.
Docteur,
même
oui.
Des problèmes de Bouende, je pense, en faisant vraiment les études dans la forêt, comme nous sommes au niveau des parcs, ça m'étonnerait pas de trouver des animaux morts dans la forêt.
Oui. Comment expliquer cette maladie à sévi en Afrique de l'Ouest et puis aujourd'hui elle se retrouve en RDC à Bouende. Comment expliquez-vous cette migration?
Donc, c'est-à-dire que c'est comme je dis, il y a pas. Ne pensez pas qu'il y a la migration de l'Afrique de l'Ouest chez nous à Bouende, non. C'est à Bouende, c'est la forêt. En Afrique de l'Ouest, c'est parti de la région forestière de la Guinée, c'est la forêt. Mais maintenant, si en Guinée, où ça s'appelle la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria, qu'est-ce qui s'est passé? Puisque dans la région forestière, en Guinée, c'est à la frontière avec les trois pays. Et puis, c'est la même population, la même ethnie, les Kissi, qui sont au niveau de la Guinée, qui sont de l'autre côté, Sierra Leone. Et puis la maladie, c'est au niveau de la frontière. Comme c'est le même peuple, et puis ils voyagent, ils se visitent, c'est tout à fait normal. Quand tu as un décès, par exemple, du côté de la Guinée, les membres de la famille qui sont de l'autre côté, ils viennent. Et quand ils partent, ils amènent cette maladie. C'est-à-dire que l'infection primaire, c'est de l'homme, de l'animal à l'homme. Mais après, c'est la transmission interhumaine. Et puis, la fièvre Ebola a des milieux d'amplification. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, quand ça commence dans la communauté, l'homme entre en contact avec l'animal et puis il amène ça dans la communauté, transmission interhumaine. Et puis maintenant, quand cet homme part à l'hôpital, comme il y a un problème d'hygiène hospitalière, donc il y a les mesures de contrôle de l'infection au niveau de nos hôpitaux africains sont vraiment déplorées.
On va y arriver.
Il y a l'amplification au niveau de l'hôpital.
D'accord, on va y arriver, docteur Benoît. Comment se manifeste cette maladie?
Bon, la manifestation d'Ebola, c'est pour cela que les premiers cas souvent on a difficile parce que la manifestation n'est pas différente des paludismes. Parce que la première signe, c'est quoi? L'homme se présente le mal de tête. Il présente le mal de tête, d'abord la fièvre, le mal de tête, les douleurs articulaires, les douleurs musculaires, et puis la fatigue. Et puis vous avez des courbatures. Il y a normalement des courbatures comme le signe que nous avons quand on a le paludisme. Et puis là, vous faites avec ça jusqu'à 4 jours, le 4e jour, 5e jour, apparaît maintenant les syndromes hémorragiques. Bien sûr, avec fièvre, il peut être associé avec diarrhée, vomissement. Donc, si vous les voyez, ces tableaux, au début, n'est pas différent des tableaux qu'on peut rencontrer dans n'importe quelle maladie infectieuse. Ah, c'est ça. Mais maintenant, pour la confirmer, il faut passer au laboratoire. Mais qu'est-ce qui fait l'alerte d'Ebola? C'est-à-dire d'Ebola, quand il y a des cas de fièvre dans les villages, quand on les soigne, on voit les fièvres qui y a pas de changement, mais surtout quand on aperçoit des décès. Quand il y a des décès inexpliqués, souvent c'est ça qui donne l'alerte. On voit dans un village, il y a des décès inexpliqués, et puis il y a des gens qui font la fièvre, on les soigne, la fièvre là ne baisse pas, et puis on remarque beaucoup de décès. Mm. Et souvent quand vous avez des décès inexpliqués, vous dites que non, il y a un problème.
Et la mort, le docteur, les décès, la mort peut intervenir après combien de temps?
La mort intervient, avec les statistiques faites, on voit la mort. Si vous dépassez 8 à 10 jours sans mourir, là, vous avez beaucoup de chances de ne pas mourir. La mort survient toujours entre 8 et 10 jours.
Voilà, entre 8 et 10 jours, nous avons déjà les auditeurs en ligne qui veulent vous poser sûrement des questions. Jean-Cyl Lomana nous appelle des Kananga, Omar Kigalo et Isaac Kinshasa. Vous êtes également intéressé, appelez-nous au 081 890 63 94.
7 jours, la fréquence de la paix unit le Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des grands lacs à la mer, Radio Capi en direct de toutes les provinces. À 8h45, 12h15, 17h20 et 17h50, heure de Kinshasa. Le tour de province, vivez les informations avec les reporters de Radio Capi.
Comment prévenir la fièvre hémorragique d'Ebola? Jean-Cyl Lomana, vous êtes à Kananga. Bonjour.
Bonjour à l'invité, bonjour. C'est Jean-Cyl Lomana.
Quelle est votre question, Jean-Cyl?
Oui, j'ai une question à poser à l'invité du jour. Pour nous, d'autres provinces qui n'ont pas encore atteint le fièvre, quelles sont les précautions à prendre pour éviter cette pathologie?
D'accord. Merci. Omar Kigalo de Kinshasa, bonjour.
Bonjour Jody Kassomé, bonjour à l'invité.
On vous écoute.
Merci beaucoup Jody, j'ai 4 questions. Je voudrais savoir, est-ce qu'à part les contacts avec l'animal et les contacts humains, y a-t-il d'autres causes qui peuvent infecter le virus Ebola? Deuxième question, hier je lis sur Yahoo, il semble qu'il y aurait un médicament qui était trouvé aux États-Unis, mais que Barack Obama est en train de remettre en cause. Est-ce qu'en tant qu'expert, peut-il prouver la véracité de ces médicaments? Il semble aussi que le Japon est prêt à aider médicalement. Je voudrais avoir des informations là-dessus. Troisième question, l'invité parle du contact avec l'animal. Je voudrais savoir, est-ce que les animaux domestiques peuvent être infectés au travers des insectes qui proviennent des forêts, comme c'est le cas de la rage? La rage a souvent une origine forestière, mais lorsqu'un insecte a piqué une bête à la forêt, il vient piquer une bête au niveau domestique, au niveau des villes. Est-ce que cette bête-là, comme le chien, peut-il aussi infecter la virus Ebola? Et pour finir, dans les villages, il y a des causes telles qu'il ne faut pas être en contact avec l'animal. Mais dans les villes, quelles sont les causes qui peuvent infecter et quelles sont les mesures préventives? Par exemple, au Nigeria, je finis par là, il est interdit aujourd'hui de saluer main à main. Donc on salue seulement de façon distancée. Alors, quelles sont les mesures que l'invité peut nous proposer, nous qui vivons dans les villes, pour éviter ces virus d'Ebola? Voici mes 4 questions aujourd'hui, je vous remercie.
Bien, merci. Anelka nous appelle depuis Siro, en province orientale. Bonjour.
Oui, bonjour à l'invité.
On vous écoute, Anelka.
Oui, moi j'avais 2 petites questions à poser à l'invité. Ma première question est, à Isiro, on a vécu la même épidémie l'année 2011, si je me rappelle bien. Et aujourd'hui encore, on nous parle qu'en province orientale, il y a beaucoup de chauves-souris qui envahissent la ville. Et les mêmes chauves-souris sont des sites d'hébergement des boules. Oui. Et je voulais savoir, à part d'autres éléments comme animal qu'on a cité, qu'est-ce qu'il faut faire pour se prévenir de ces maladies-là?
D'accord. Merci.
Je vous remercie.
D'accord. Gaston Kimbenza, vous êtes à Kinshasa. Bonjour. Et quelle est votre question?
Merci. C'est Gaston Gando. Souvent, on commence avec un Benz, je sais pas si...
Gaston Gandou, d'accord. On vous écoute, Gaston.
Disons, 3 questions. J'ai 3 petites questions. Je voulais un peu savoir si on pouvait administrer volontairement ces virus, ces bactéries, comme ça peut être le cas aussi avec le virus du sida. Deuxième question, pour le cas de la RDC actuelle, est-ce que ce n'est pas une contamination venant de, d'autres pays qu'on a eu à entendre avant, ou c'est carrément notre cas qui concerne notre pays? Parce que vous parlez aussi que ces entités-là sont des entités frontalières avec les pays qui étaient jadis contaminés. Je pense que ce n'est pas une contamination. Et puis, est-ce qu'on pouvait aussi, à mon avis, politiser un événement comme celui-ci de la maladie et politiser ça afin de provoquer la panique, la psychose auprès de la population? Ça peut être possible, comme c'est le cas avec les violences sexuelles chez nous qui est désigné et marché pour les ONG, que ce soit national et international. Merci.
D'accord. Adrienne nous appelle de Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, monsieur José Daniel. Bonjour aussi, docteur Benoît Kabila Ilunga.
Quelle est votre question?
Premièrement, j'aimerais vous dire que c'est avec un grand douleur que j'avais appris que c'est moi, j'ai bon d'être entré ici chez nous en RDC. Ma première question est ainsi. Comment est-ce que ce virus d'Ebola est arrivé ici chez nous en RDC? Et la deuxième, qu'est-ce qui fait que ce virus n'est pas soigné? Et la dernière question, à part l'hygiène, il y a aussi d'autres moyens pour éviter ce virus d'Ebola. Merci, Josie.
Bien. Docteur Benoît, je reviens à vous après cette vague des questions des auditeurs. Alors, vous avez la parole, la première question, c'est Jean-Cy qui parle des précautions. D'ailleurs, bon nombre d'auditeurs reviennent sur les mesures préventives. Il y a Omar Kigalo qui parle de, à part le contact avec l'animal, il y a d'autres sources de contamination.
Bon, je vais essayer de ramasser un peu les tout, hein.
Oui.
Je vais aller de plus compris comprendre de la transmission même, et puis comment se fait la transmission, comment on peut éviter.
Oui.
Parce que c'est ce qui revient. D'abord, pour la transmission, je vous ai dit que la première infection, c'est que vous laissez le contact homme-animal. Ça, c'est le premier. Quand vous trouvez contact avec un animal malade, et là, vous attrapez ça. Ça, c'est la première. Bon, maintenant, après, vous avez les contaminations, les transmissions interhumaines. L'intérimaire, c'est-à-dire qu'il d'homme à homme, homme à homme. Bon, comment est-ce qu'on peut faire pour empêcher la transmission de l'homme, de l'animal à l'homme? C'est-à-dire quand les gens vont partir en forêt, souvent ce qui arrive, les gens trouvent les animaux morts, et pourtant, sur les animaux qui sont morts, voilà, ils ramassent, ils viennent avec ça en forêt, à la maison, et quand ils dépiècent, puis ils préparent, ils mangent. Et souvent, la dame qui prépare, il s'infecte parce qu'il est en contact avec le sang de l'animal. Vous comprenez? Il entre en contact avec le sang de l'animal. Une fois, lui, elle est atteinte, ou la personne, ou le chasseur qui a amené, parce qu'il est en contact avec le sang de l'animal qu'il a transporté. Maintenant, après 10 à 15 jours, il tombe malade, il présente la fièvre. Mais à ce moment-là, quand il entre aussi en contact avec les autres, le contact, c'est le contact avec tout ce qui est liquide physiologique, que ce soit la transpiration, que ce soit les urines, que ce soit la salive, et sur les contacts. Donc avec ça, il transmet à une autre personne, vous voyez. C'est pour cela que, comme pour éviter, on vous dit, c'est quand vous trouvez un animal mort, il faut pas le ramasser. Il faut le ramasser pas, il faut le laisser. Et aussi, durant la période, comme cette période, quand vous avez la période où vous avez un seul cas d'Ebola qui est détecté dans un milieu, on vous dit, il faut plus aller à la chasse. Parce que ça arrive aussi, les chasseurs, et puis souvent, habituellement, quand ils voient les animaux malades. Parce que quand les chasseurs arrivent, les animaux qui sont pas malades, ils s'enfuient, mais ceux qui sont malades, ils se font pas courir, et à ce moment-là, ils les tuent facilement, ils disent, non, voilà, j'ai un gibier. Donc, pour éviter, d'abord, il faut, quand vous partez en route, éviter tous les contacts, éviter les contacts avec un animal mort. Vous trouvez un animal mort, il faut pas les ramasser, laissez-les. Deux, durant cette période, comme par exemple, le cas de Rwanda, il faut ne pas aller à la chasse. Parce qu'il y a un risque élevé de rencontrer les animaux qui sont malades. Parce que je vous ai dit qu'ici, l'Ebola commence par les épices aussi, c'est-à-dire que par les épidémies parmi les animaux. Ça, c'est première mesure. Deuxième mesure.
Oui.
Deuxième mesure, c'est quoi? C'est le plus simple. Il faut éviter de saluer. Il faut se laver les mains. Ça, c'est normal. Même quand vous lavez les mains, vous protégez pas seulement contre Ebola, et c'était contre toutes les maladies, quoi, hein. Parce que quand vous êtes, quelqu'un peut être déjà il présente les signes, vous ne les savez pas, vous les touchez, vous pouvez attraper, parce qu'en les touchant, vous entrez en contact avec ces liquides physiologiques, quoi. Et puis aussi, quand un malade vomit, vous êtes en contact avec ses vomissures, même quand un malade qui fait avec ses selles, les diarrhées, là, vous attrapez ça. Donc, il faut éviter ça. C'est pour cela, même au niveau des hôpitaux, on utilise les matériels de protection. Parce que c'est un virus hautement pathogène. Ça est vraiment, c'est un virus hautement pathogène. Parce que les décès, le risque de décès est très, très élevé.
Mm-hmm.
Bon. Mais l'autre a posé la question. Est-ce qu'on peut trouver dans les animaux domestiques? Oui. Je vous dis qu'il y a des études qui ont montré, quand il y a une épisodie pendant l'épidémie d'Ebola, c'est un coin, quand il y a une épidémie de l'animal sauvage, on trouve ça, même le virus chez les porcs.
Oui, ah, ouais. Alors donc, il dit est-ce que
période, il faut faire attention, oui. On peut le prouver.
D'accord, il dit est-ce que Omar dit est-ce qu'un animal domestique, par exemple un chat, peut être piqué par
Je ne saurais pas parce que dans la littérature ce n'est pas écrit.
Oui.
Dans la littérature on parle des porcs. Dans la littérature pour le plan sauvage on a vu déjà dans les parcs même des lions qui sont morts d'Ebola. C'est-à-dire qu'un lion qui a dévoré un antilope qui est malade et puis l'autre qui attrape l'Ebola. Ça dans certains parcs on a constaté ça. Bon, maintenant, pour les chauves-souris, bien sûr, actuellement, les recherches, les hypothèses, les chauves-souris plus, on commence à vraiment constater que les virus seraient les chauves-souris frugivores. Les virus seraient, les chauves-souris frugivores seraient les réservoirs, voilà. Les chauves-souris frugivores seraient les réservoirs du virus d'Ebola. Et qu'est-ce qu'on pense? On pense que quand les chauves-souris mangent un fruit, le fruit qui tombe, il mange à moitié, et puis à manger les fruits, il y a cette salive au niveau des fruits, même des fois quand c'est urine. Et puis maintenant, quand l'animal qui passe, vous avez le primate qui passe, il ramasse les fruits, il les mange, ou quand l'antilope passe, il mange ses fruits, il passe les fruits, il les mange, l'antilope tombe malade, et à ce moment-là, il meurt. Quand l'homme arrive, il trouve un singe mort, il ramasse, il trouve un antilope mort, il ramasse. Quand il a mangé, et puis il est malade, il y a le risque est élevé qu'il soit tué par un chasseur, et quand il amène ça au village, il amène la maladie au village. C'est dire que aussi, bien sûr, on peut trouver ça chez l'animal qu'on connaît, c'est le porc. En dehors des porcs, je crois que les chiens, ce n'est pas décrit. Je n'ai pas vu dans la littérature où c'est écrit, mais les porcs, on a décrit, parce qu'on a constaté qu'avant l'épidémie d'Ebola, on voit les porcs qui meurent sans explication. Oui. Je m'appelle même à Issur, on a eu ça.
Mm-hmm.
À Issur, on a eu à Rungu, il y a eu des porcs quelques mois avant, et on a constaté que il y a beaucoup de porcs qui étaient morts au niveau du village.
Oui, alors, docteur Gaston...
Puis, bon, si je peux continuer, parce qu'il y a encore les questions qu'on a posées,
d'accord,
pour expliquer comment, si ce n'est pas l'épidémie de l'Afrique de l'Ouest, je dirais non. C'est pas l'Afrique de l'Ouest, nous avons la forêt chez nous, le virus circule chez nous, nous avons les hommes chez nous. Il arrive comme ça, il y a une année. C'est comme quand vous avez l'argent chez l'homme, hein. Mmh. Il arrive comme ça, brutalement, hein, et puis aussi c'est les animaux en forêt. Et quand l'homme est en contact, il attrape la maladie. Mais là, qu'est-ce que je peux conseiller au niveau de ville? C'est-à-dire que vous prenez les mesures au niveau de ville, bien sûr, il faut faire attention, il faut quand même se laver les mains à tout moment. Mais c'est pas seulement pour le Ebola, c'est pour éviter d'autres maladies. Il faut se laver les mains à tout moment.
Oui.
Il n'est pas dit qu'il ne faut pas saluer les gens, non. Vous pouvez sortir. Surtout dans les milieux où il n'y a pas de problème, dans les provinces, bon, on peut saluer quelqu'un, mais après, il faut se laver les mains. Ça, c'est les plus simples méthodes d'hygiène. Mais dans les endroits où nous déclarons l'épidémie comme abondé, là, on va plus loin. Là, on va plus loin. Hein, on interdit.
Les poignées de main
de, et puis, même si vous trouvez un animal mort, bien sûr, partout qu'on va les prendre, surtout on interdit la chasse.
Mm-hmm.
Et puis, il faut pas se tirer les mains. Et puis, devant tout cas suspect qui présente la fièvre, il faut l'enlever, le mettre en isolement. Il faut qu'il ne soit pas en contact avec les autres. Et puis, éviter tout ce qui est vomi sur les selles des non-malades. Et puis, le plus, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il identifie tous les cas suspects. Vous les mettez à côté et puis vous identifiez aussi tous les contacts qui étaient en contact avec les suspects et vous les suivez durant 21 jours. Et c'est avec ça que vous pouvez arriver à rompre la chaîne de transmission. Bon, je dirais pour les autres provinces, on a fait les plans de contingence. Il faut pas que les gens paniquent. Il faut pas que les gens paniquent. Le problème n'est pas pour actuellement. Nous
Docteur
avons
le problème
qui est à Boundé, mais pas à Boundé.
Docteur Benoît.
35 km à Boundé et puis dans la forêt équatoriale.
D'accord. Docteur Benoît, je reviens à vous dans quelques instants. Il est temps d'accueillir deux autres auditeurs. Mmh. On parle aujourd'hui de comment prévenir la fièvre hémorragique d'Ebola. César Mourola nous appelle des Bukavu et Jean des Dieux est à Kikwita.
Votre radio vous propose chaque après-midi, du lundi au vendredi, 3 heures de découverte. De 13h à 16h, partez à la découverte de recettes, des femmes et des jeunes qui se distinguent. Suivez nos reportages, vie quotidienne, paroles d'enfants, regards d'avenir et point de vue des jeunes. Laissez-vous guider par des balades en zigzag, un zeste de culture et beaucoup de musique. Nous répondons également à vos questions. 13h, 16h, découverte, le cocktail de l'après-midi sur Radio Okapi.
Eh bien, que faire pour prévenir la fièvre hémorragique d'Ebola? César Mourola, vous êtes à Bukavu. Bonjour et quelle est votre question?
Bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour, monsieur l'invité. Bonjour aussi à tous les auditeurs de la Radio Okapi. Oui, je voudrais aussi demander, monsieur le journaliste, parce que j'ai suivi hier avec succès l'intervention de monsieur le ministre de la Santé publique au cours du dialogue intercongolais. Et j'ai suivi, il s'est penché surtout sur la sensibilisation. Mais pour moi, monsieur le journaliste, sur les sensibilisations qu'il a appelé les gens à faire, il y a une certaine limite, parce qu'il a insisté beaucoup plus sur la province de l'Équateur qui est frappée par cette épidémie.
César, quelle est votre question? César, oui. Soyez bref, on n'a pas assez de temps, quelle est votre question?
Oui, c'est ça, monsieur le journaliste, j'arrive. Et c'est pourquoi je voudrais demander aussi qu'est-ce que les autres, dans d'autres provinces, on doit faire, surtout dans des provinces qui habitent, des gens qui habitent le long, aux environs des forêts, des parcs, j'en passe. Qu'est-ce qu'ils doivent aussi faire et qu'est-ce qu'on a aussi prévu pour afin de les sensibiliser par rapport à cette hémorragie?
Merci. Jean des Dieux, vous êtes à Kikwit, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour aussi à docteur Benoît.
Quelle est votre question?
Oui, merci beaucoup. J'ai trois préoccupations à demander à docteur Benoît. Ma première préoccupation, je voulais juste demander à notre invité. Parce qu'on a dit le virus, le réservoir plus le virus, ça se trouve dans les animaux sauvages. Maintenant, est-ce que les viandes boucanées qu'on nous amène ici, des singes et d'autres espèces là des animaux déjà séchés là, à l'intérieur de ce que le virus pouvait être aussi contenu dans le viande boucanée qui est au marché. Et c'est pendant cette période que nous sommes victimes de la fièvre hémorragique Ebola. Il est mieux aussi que nous commençons aussi à les consommer ou bien à refuser de ne pas manger. Ma première préoccupation. La deuxième, je voulais juste demander à l'invité qui puisse nous donner la physiopathologie de cette maladie-là. Lui-même, je pense que le docteur Benoît comprend bien ce que c'est la physiopathologie.
Allez-y rapidement, Jean des Dieux.
La troisième préoccupation est qu'il puisse nous donner maintenant le diagnostic différentiel de cette maladie-là par rapport à d'autres pathologies qui est hémorragiques. Merci beaucoup.
Bien.
Bon titre des programmes sur la radio.
Bien, merci. Patient Paul, vous êtes à Kinshasa, bonjour, et quelle est votre question?
Oui, bonjour Jody, ainsi qu'à notre invité. Oui, ma première question est de savoir, quelle est la différence entre le choléra et la fièvre hémorragique, donc Ebola? Car donc, selon le ministre de la Santé, donc qui faisait donc un point de presse, il dit donc l'Ebola vraiment qui sévit donc en RDC n'est pas à comparer avec celui donc qui est donc dans la partie ouest de l'Afrique. Et puis la deuxième question est de savoir donc depuis que cette maladie donc a été déclarée en RDC, il y a cela donc 3 à 4 décennies, quel a été donc quel est le produit vraiment que les Congolais ont pu fabriquer pour un peu donc en termes d'anti-Ebola pour que les Congolais ne soient pas victimes. Et quelle est l'importance de nos laboratoires? Car dernièrement donc il y a eu donc la grippe aviaire en Europe qui a tué beaucoup, mais le blanc s'est mis donc à la recherche de solutions jusqu'à éliminer donc momentanément. Et puis nous, les Congolais, vraiment, pourquoi vraiment
Merci. Bien, Michiki, vous êtes à Mbandaka, bonjour, et quelle est votre question?
Oui, c'est M. Chidi à Mbandaka. Je voulais vous poser deux petites questions à notre invité. La première est celle-ci. Lorsque votre conjoint ou votre frère est atteint de la maladie ou le virus d'Ebola, est-ce que nous sommes loin de l'hôpital ou loin du centre de santé? Est-ce que quelle précaution que nous allons prendre pour l'amener vite dans un centre de santé pour que nous ne puissions pas avoir ou atteindre cette maladie? La deuxième question est la suivante. Quels sont les médicaments du calmant qu'on peut donner à la personne qui a atteint la maladie de le virus du Ebola?
D'accord, merci. Docteur Benoît Kebela, vous avez la parole.
Oui, c'est la parole. Bon, je vais les répondre en principe. Commençons par celui le dernier qui a parlé des médicaments.
Oui.
Je peux vous dire, bien sûr, il n'y a pas de médicaments spécifiques, mais quand il y a quelqu'un qui entre en stade, effectivement, il y a les maladies symptomatiques. Mais qu'est-ce qu'on fait? C'est plus que la réanimation. On donne beaucoup de fusion, beaucoup d'eau. Le type doit avoir beaucoup d'eau. Parce qu'avec ça, on fait tout pour qu'il puisse pas arriver à avoir des problèmes rénaux. Parce que souvent, les gens qui meurent, ils ont des problèmes rénaux, hein. C'est pour répondre aussi à notre ami qui a parlé de physiopathologie.
Oui.
Qu'est-ce qui se passe dans le cas d'Ebola? Dans le cas d'Ebola, surtout au stade qui peut démoralisé, vous avez ce qu'on appelle les coagulations intravasculaires. Et c'est comme les intravasculaires qui font que vous avez des hémorragies. C'est pour ça qu'on a les syndromes hémorragiques. Et c'est ça, à ce moment-là, souvent les gens meurent de quoi? Ils meurent des complications rénales et des complications hépatiques. Vous avez le fonctionnement hépatique qui est perturbé, vous avez un niveau rénal qui est perturbé, c'est ce qui tue souvent les malades. Et quand le malade dépasse 8 à 10 jours, il n'est pas mort. Surtout quand le malade a eu beaucoup de fusion, et puis on lui donne des fortifiants, on lui donne des micronutriments, le malade peut passer ses 8 à 10 jours et puis vous avez la chance de les récupérer. Mais vous devez savoir que c'est une maladie très létale, c'est-à-dire il tue beaucoup. Et puis maintenant, quelle est la différence avec le choléra? Le choléra, c'est une maladie qui est provoquée par les vibrio, donc un vibrio se met dans tous les gammes de bacilles. Mais l'Ebola, c'est un virus. C'est un virus, c'est ça la différence. Et puis l'Ebola, le choléra, vous avez bien sûr, c'est au niveau maladie, au niveau des intestins, les malades fait des diarrhées profuses juste à ce qu'il y a une hypovolémie, donc moins de liquide dans la circulation en général, et puis il meurt de déshydratation, bien sûr, avec vous avez des complications rénales qui arrivent aussi. Mais puis dans les choléras sans traitement, vous avez 50%, vous pouvez récupérer les malades. Et puis dans les choléras, on n'a pas de fièvre, Mais si on voit la grande différence, c'est au niveau même de l'éthiologie, au niveau de l'éthiologie, oui, les bacilles, si les vivez, et puis même au niveau de la transmission un peu, si même la transmission d'Ebola sur oro fécale, la transmission d'Ebola n'est pas oro fécale, pas le cercle touché avec les humeurs des malades, vous attrapez la maladie. Quel est le danger différentiel, les gens ont parlé? C'est-à-dire qu'ici, l'Ebola, quand on commence, on appelle fièvre hémorragique. C'est-à-dire que la fièvre puis le syndrome hémorragique. Il y a beaucoup de maladies qui font la fièvre et le syndrome hémorragique. Nous avons, par exemple, les salmonelloses, que nous pouvons appeler la fièvre typhoïde. La fièvre typhoïde, c'est une fièvre hémorragique, mais n'est pas virale, vous voyez. N'est pas virale. Vous avez, par exemple, vous avez la shigellose, qu'on appelle les diarrhées sanglantes ou les dysenteries bacillaires. C'est bacillaire,
ce n'est pas viral.
D'accord. Docteur Benoît.
Donc, il y a ouais. toute gamme de dangers différentiels.
Oui.
Nous avons des pathologies qui provoquent la fièvre, plus, plus les sénomalagies. Vous avez la méningite fulminante, vous faites la même chose.
Voilà,
vous avez
docteur,
le paludisme.
Docteur Benoît.
Complication, il peut vous faire ça.
Docteur hein? Benoît, oui.
Oui.
Il y a
oui.
un auditeur qui dit.
C'était pour répondre à ces gens. Hein,
d'accord.
Qui posaient quel est le diagnostic différentiel. Mais ils doivent savoir.
Oui.
Le diagnostic des fièvres maladies virales d'Ebola, c'est les laboratoires. Vous avez des cas suspects, il faut le confirmer au laboratoire. C'est pas parce que quand on voit tout cas qui a la fièvre et puis c'est une maladie, vous dites, ah voilà, j'ai des cas d'Ebola. C'est ce qui se passe maintenant avec la panique. C'est ainsi qu'ici j'attire l'attention de tout le monde, surtout de tous les médecins au niveau des provinces. Ce n'est pas devant un cas, quand vous avez des cas, un cas est suspect, un cas qui a la fièvre hémorragique, vous commencez à déclarer ce qui se passe partout, ici maintenant à la radio, ah, il y a un cas de fièvre hémorragique tel endroit. Non, mes chers amis. Devant tout cas, je vois les médecins savent ça, ils font leur anamnèse, leur dossier différentiel, il faut jusqu'au prélèvement pour avoir la confirmation. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Partout, vous avez Bandaka qui dit, tantôt on vous dit Kakokolo, tantôt on vous dit l'hôpital général. Non, moi je pense que ça, c'est pas professionnel.
Alors,
là, souvent,
oui.
j'ai vraiment là, j'ai besoin d'appeler les médecins,
oui.
ce n'est pas professionnel. Qu'ils cessent avec ça, ils créent plus la panique. Le problème, il est à Bouende, mais pas Bouende, mais il est, ce soit le problème de Bouende. Ce n'est pas quand on trouve un cas de fièvre plus un syndrome hémorragique qui peut être à l'ICACI, qui est le l'ICACI dit. J'ai la fièvre hémorragique.
D'accord, docteur Benoît.
D'accord, j'ai la fièvre hémorragique. Donc moi, je pense que les gens doivent cesser.
D'accord, docteur Benoît, il y a un patient qui a dit, mais quel est le produit? Est-ce qu'on n'a pas trouvé un produit anti-Ebola?
Je vais répondre.
Oui, Omar
le
a dit...
Le produit anti-Ebola comme tel, mais je pense ici, même les traitements aux États-Unis, ce n'est pas le produit, c'est un sérum. Un sérum, on peut appeler convalescent, un sérum qui a des anticorps. Nous avons le procès Mouyembe en 95 à Kikwit. Il a fait ça, il a dit sauver les vies. Mais est-il que le problème qui se doit, parce que c'était pas validé. Même ce qu'on a fait aux États-Unis maintenant, d'ailleurs le sujet est mitigé. Le problème, il faut que ce n'est pas validé. C'est encore en expérimentation. Mais quand on voit les principes immunologiques pour, dans les cas des maladies virales, où on fait ça. Prenons l'exemple, on fait de la thérothérapie. Même dans les cas de la rage, on fait la même chose.
D'accord,
c'est
docteur,
le même principe.
Docteur
hein.
Benoît, et alors, on est à la fin.
Si on peut le faire, mais ce n'est pas, c'est encore à l'expérimentation.
Docteur Benoît, on est arrivé à la fin de cet entretien. Pouvez-vous rappeler rapidement les mesures préventives à observer par rapport au virus Ebola?
Les mesures préventives, j'ai dit, si prenons un, commençons par les régions telles qu'on Bouende. Là, ces régions, nous demandons à la population de ne pas faire la chasse. Ça, c'est pour la prévenir. Deux, nous demandons à la population de ne pas ramasser les animaux qui sont morts. Donc, il faut vraiment couper avec la forêt. Deux, dans la communauté, nous demandons d'éviter la contamination interhumaine, c'est-à-dire de ne pas se toucher, de ne pas s'étaluer. Et trois, on demande, il faut se laver tout le temps les mains. Il faut vraiment l'hygiène. Nous demandons l'hygiène. Il faut l'hygiène rigoureuse. Et puis quatre, même devant un malade, votre frère qui est malade, il faut faire attention, éviter d'être en contact avec ses vomissures, même avec ses ailes. Et puis, c'est ce que nous demandons, même après un traitement, parce qu'on a constaté que dans les spermes, les spermatozoïdes des malades convalescents, durant quelques semaines, il y a encore des germes. Donc il faut après malade, il faut éviter. C'est pour cela qu'on donne même les préservatifs. Bon, et puis côté maintenant système de santé, on renforce le système de surveillance. On fait la recherche active des cas. On identifie tous les contacts, c'est-à-dire toute personne qui a eu contact avec un malade. Et on les suit durant 21 jours. Tous ces méthodes, c'est pour arriver à arrêter la transmission.
D'accord.
Au niveau des hôpitaux, on augmente, on élève les seuils de l'hygiène hospitalière pour le contrôle de l'infection. Voilà, toutes ces méthodes qui ensemble, c'est pour arriver à couper la transmission. Pour les autres régions où il n'y a pas encore l'épidémie, nous demandons à ce que les personnes, bon, parce que là, on n'interdit pas la chasse, mais quand vous partez à la chasse, vous trouvez un animal mort, il ne faut pas les prendre, il ne faut pas les toucher.
D'accord. D'accord.
Et puis, dans la communauté, il faut vraiment essayer les mesures d'hygiène, appliquer les mesures d'hygiène rigoureuses.
D'accord.
Donc, avec ça, on peut éviter... On peut éviter les bolas. Bien sûr, c'est tout ça, c'est dans la sensibilisation.
Docteur Benoît Kebela Ilunga, épidémiologiste, merci.
Je vous en prie.